Toujours l'émission littérature sur Radio Campus Orléans, avec ce soir en direct par téléphone, une grande joie pour moi. Bonjour Michel Jury.
Bonjour.
Merci à vous d'être en direct par téléphone. Alors nous allons parler donc de Mais le Monde, le livre qui vient de sortir pour la rentrée de septembre. Et j'avais envie de vous poser une première question un petit peu générale avec cette petite préface de 3 pages juste avant Mais le Monde. Et cette préface commence comme ça avec un petit 1, adresse à la révérende mère SF, donc comme science-fiction. Et alors, je vais dire ce petit passage, adresse à la révérende mère SF, et là, vous parlez à la révérende mère SF, et là, je vous cite, « J'ai eu une envie d'écrire une histoire à ma façon, peut-être pas à la tienne, mais je te demande de la parrainer en souvenir de nos amours anciennes. Voici, je l'appelle en roman 3D, hommage à la trilie fameuse de nos années 60. Déviation, dérision, déraison. » Déviation, car tu nous as raconté beaucoup de déviants dans tes pages. Dérision, car tu as inspiré Shakley, F. Brown, Tiptree et sans autre. Déraison, car ta sagesse rationnelle n'exclut pas de temps à autre l'univers en folie. Alors ma question, Michel Jury, c'est fallait-il une adresse à la révérende mère SF pour votre retour très attendu à la science-fiction ?
Oui, alors d'abord une petite précision quand même. Ce texte n'était pas du tout destiné à devenir une préface. Mon éditeur Gérard Klein m'avait demandé de préparer un texte pour lui servir de prière d'insérer, de quatrième de couverture, et je me suis laissé aller. Et tout le monde a compris que c'était une allusion à Dune, bien sûr. Quoique Dune ne soit pas mon roman de science-fiction préféré dans les classiques, mais ça me semblait quand même une bonne occasion d'amadouer la bête, de lui passer un peu la main dans le sens du poil, parce que ce monstre qui était devenu pour moi la science-fiction me faisait un petit peu peur. Alors voilà, je voulais l'amadouer, mais j'ai été très étonné de retrouver ce texte en préface. Bon, je l'aurais mieux aimé peut-être en postface ou ailleurs. Bon, maintenant il est là, je l'assume, et je n'ai absolument rien à retrancher.
Alors, ça voilà, c'était le petit texte de début, et ensuite, tout de suite, on est dans Mais le Monde, on est avec Mais, on est dans ce monde. Ma question, un peu pour être générale, c'est... qu'est-ce qui lui arrive à May ? C'est quoi son problème à May ?
Son problème à May, mais c'est d'exister. C'est d'exister et d'être dans un univers infini. Et d'être non pas une May, mais 100 000 millions de May. C'est notre problème à tous. Et que voulez-vous ajouter ?
En même temps, on a l'impression que le fil conducteur, c'est que c'est une enfant de 10 ans qui est malade, qu'on peut imaginer mourir, et qui, en attendant, infiniment, comme vous dites, va vivre une pluralité de vies.
Oui, oui, enfin... je me suis donné une liberté totale dans ce livre. C'était vraiment mon projet. Et la vie, la mort, l'espérance, le désespoir, l'éternité, que j'appelle l'éternité, l'infini, je me suis accordé voilà. Je me suis refusé, par raison de raison, absolument rien. Et tout est là. On retrouve tout, donc. Je crois que ce qui m'ennuierait, c'est qu'on cherche trop de logique dans cette histoire. C'est une histoire que j'ai voulu quand même très poétique. Enfin, allons. Que j'ai voulu construite avec des briques de poésie. Et j'entends bien le contraste entre le mot brique et le mot poésie, et peut-être après tout l'essentiel du roman est-il là, entre la brique dure de l'univers et la poésie folle et sans limite des âmes.
Vous parlez de poésie, Michel Jury. Je peux du coup aller dans votre sens avec cette langue. Vous inventez des mots, et ça c'est étonnant que vous vous mettiez, j'allais dire, à votre âge, à inventer des mots, à jouer avec la langue à ce point-là. C'est surprenant de le faire maintenant.
Je l'ai toujours fait, hein, si vous permettez. Dans un autre esprit, un éditeur de fanzine, il y a une trentaine d'années, avait même publié quelque chose qui s'appelait à l'époque l'encyclopédie Jurialis. Et j'avais déjà prouvé que j'aimais inventer des mots. C'est simplement l'esprit dans lequel j'invente qui a changé. Tout simplement peut-être parce que je suis vieux, honorablement vieux, et que j'ai une autre vision de la langue. Mais inventer des mots, je l'ai toujours aimé, même si pendant des dizaines d'années, je n'ai plus pu me le permettre.
Est-ce qu'en faisant ça correspond à votre envie de liberté totale pour ce roman ?
Alors, il faut quand même, oui, mais il faut quand même pas être trop optimiste. J'ai voulu me donner une liberté totale, mais ai-je réussi ? C'est les lecteurs, c'est les critiques, c'est les lecteurs qui doivent le dire. Mais, je trouve d'une façon générale que les auteurs ne s'accordent pas assez de liberté. Et moi, le premier, quand je suis dans une littérature plus commune, il y a tellement de choses qui restreignent la liberté des auteurs. C'est une vraie douleur, c'est une vraie souffrance. Alors là, je me suis promis de lutter contre cette souffrance en me laissant aller à mes envies de création. Est-ce que je ne me suis pas censuré ? Quand même. Soyons honnêtes, oui, de temps en temps, je me suis dit, n'allons pas trop loin. Il faut que les lecteurs puissent me suivre. Alors c'est à vous de juger.
Allô ?
Oui.
Oui, pardon ?
Alors c'est à vous de juger. Hein.
D'accord, c'est un autre sujet.
À vous critiques et à vous lecteurs. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire ? Je n'en suis pas sûr.
En lisant l'entretien que vous avez eu avec Richard Comballo, qui est paru dans Voix du Futur, aux éditions Mouton Électrique, j'ai trouvé deux fois cette expression que vous employez. Vous dites je vous cite, « Je suis un auteur très moyen, mais qui a pris beaucoup de plaisir à raconter ses histoires. » Et puis, quelques pages plus loin, je lis « J'ai toujours été un raconteur d'histoires. » Or, j'ai l'impression que dans « Mais le monde », c'est des centaines de petites histoires que vous racontez, que vous juxtaposez en un ensemble général. Est-ce que c'est ça, cette liberté totale que vous êtes permis, c'est de créer une sorte de matière dans ce livre « Mais le monde » qui vous permet de raconter des centaines d'histoires ?
Des centaines, je ne sais pas, mais oui, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, et je suis un raconteur, je suis né comme ça, sans doute. Je viens d'un pays où on racontait beaucoup d'histoires, le Périgord, le Sud-Ouest rural, on racontait énormément d'histoires, et ma mère raconter quelquefois une catégorie d'histoires très curieuses, typiques du folklore paysan, les histoires de gens qui s'étaient nés à l'abri. Bon, on avait des brassants, des paysans, des commerçants qui rentraient sous l'orage et qui cherchaient un endroit pour s'abriter de la foudre, de la pluie, etc. Et cet endroit, ils le trouvaient, ça pouvait être une maison abandonnée, une forêt, une cabane, une grotte. Et là, il leur arrivait des choses extraordinaires, généralement épouvantables. Et c'est un peu l'image que je me fais de mes romans. Voilà. On se met à l'abri dans la lecture, et puis il vous arrive des choses tout à fait imprévues, tout à fait étranges et diverses. Et c'est un peu ça, la littérature aussi.
Et je vous posais tout à l'heure cette question qui vous a un peu surpris sur c'est quoi son problème à May. Parce que en lisant Mais le Monde, en tant que lecteur, je me suis posé le problème. C'est un livre qui m'a posé des problèmes et c'est là où je trouve ce livre fondamentalement intéressant. C'est qu'il pose des problèmes. Il m'a posé beaucoup de problèmes en le lisant. Et mon problème, c'était qu'est-ce qui se passe concrètement dans Mais le Monde ? Voilà. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ?
Oui, on peut l'interpréter de nombreuses façons. Bon, je vais toujours vous en donner une, la plus simple. Mais, et probablement, hein, je dis probablement parce que rien n'est sûr, puis il y a tellement de mais dans le multivers infini. Bon, cette mais-là, ou beaucoup de mais, sont en train de mourir. Elle est probablement dans le coma. Et son univers entre l'univers, puisque nous sommes tous des univers, son univers entre en, disons, en décohésion. Et tous les... Ah oui, mais là, je suis en train de rêver toute l'histoire. Est-ce que c'est permis ?
C'est permis complètement de raconter les histoires, complètement.
Oui, c'est un peu dommage quand même. Bon, tant pis, j'ai commencé, je continue. Tous les êtres, tous les gens qui peuplent l'univers, le monde de May, s'en vont les uns après les autres, quittent les lieux, ils sont chassés par la mort. Et à côté, donc le monde, elle va rester seule pendant un certain temps dans ce monde qui est elle-même. Mais à côté, tout autour, un immense tourbillon se fait de gens qui se préparent à entrer, eux, dans le monde de May. Mais un monde où May ne sera plus. Il y a ceux qui sortent, ceux qui y sont d'abord, ceux qui sortent et ceux qui entrent, qui essaient d'entrer. Voilà une interprétation de... Et comme ça paraît assez simple, ça n'est pas tout à fait autant, mais c'est une façon de raconter l'histoire. Seulement, voilà, j'ai quand même bien défloré mon intrigue.
En même temps, c'est une possibilité. La possibilité de lecture que je me suis faite, c'est que ces espèces de mondes, comme ça, cette pluralité de mondes qui sont créés, ça m'a fait penser un peu à l'image d'une sorte de lieu de fuite, de lieu du rêve, un peu comme dans Le Temps incertain, vous parliez de la perte en rue à bas. Et j'imaginais du coup cette espèce de lieu un peu idéal où évoluer May, où évoluer ces dizaines de personnages qui sont pas dans les mêmes lieux. Et j'avais interprété plutôt May le Monde comme la tentative de soigner May de sa maladie.
Mais bien sûr, sa maladie, elle en a deux en fait. Il y en a une qui s'appelle la vie et l'autre qui s'appelle la mort. Et elles se soignent peut-être l'une par l'autre. C'est aussi une belle hypothèse, je veux bien.
C'est-à-dire que si je fais un peu une lecture croisée entre Le Temps incertain et Mais le Monde, je constate que dans chacun, il y a un docteur. Le docteur Goldberg, oui, dans Mais le Monde, le docteur Holzbach, je ne sais pas si je prononce bien, dans Le Temps incertain. Dans les deux, il y a des hôpitaux et j'ai l'impression que soigner est important.
commencer. Le docteur Goldberg, c'est le Deus Ex Machina. Et son nom vient aussi, je peux le donner, c'est pas très important, mais enfin, son nom vient du nom d'un physicien, d'un physicien cosmologiste qui avait la réputation de créer des machines, mais des machines théoriques, des explications de l'univers extraordinairement compliquées, si bien que chez certains physiciens, une théorie extrêmement biscornue et complexe, on l'appelle une machine de Goldberg, de Rube Goldberg. Et c'est ça qui m'a, c'est ce nom qui m'a inspiré, le nom du docteur Goldberg. On peut aussi penser que, en réalité, mais je mets en réalité entre guillemets, c'est le docteur Goldberg qui est en train de fabriquer ce monde aussi. Alors, cela dit, il y a une différence avec le temps incertain, peut-être parce qu'il y a presque 40 ans, dans le temps incertain, il y a un lieu de fuite idéal quelque part au fond du rêve. Oui, c'est la Terre par là-bas, dans les chefs du temps, c'est la planète Gogol. Il n'y a pas ça dans le monde de Né, il n'y a pas d'endroit idéal de ressources. On voit à la fin, mais peut-être est-ce une autre née, sûrement une autre née, arriver dans un endroit qui a l'air d'un paradis, et alors là, je vous laisse découvrir ce qui se passe. Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de paradis caché dans Né le monde. Ou alors, ils sont si bien cachés que moi-même, je ne les ai pas vus. Alors que dans le temps incertain, il y a un point de fuite. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Je suis plutôt globalement d'accord, parce que c'est ça qui est intéressant dans Mais le Monde, c'est ce jeu de l'interprétation que l'on peut en faire. Et c'est ça qui me passionne en vous interrogeant, là, c'est que je vois que vous en faites d'autres et vous en faites plusieurs aussi, et c'est ça moi qui m'excite là, parce que ce livre qui se prête à différentes interprétations, que le lecteur interprète lui-même dans sa lecture, parce que c'est un livre qui est dense dans sa lecture, c'est-à-dire qu'on peut là il y a l'imaginaire qui est vaste, et le lecteur va apporter en plus cet imaginaire. Moi je l'ai vu ce livre comme une énorme parabole sur la mort.
Oui, tout à fait vrai. Mais sauf que c'est très, tout à fait vrai, mais le mot parabole me paraît un peu solennel et un peu affirmatif. Si on disait, si les gens comprennent une parabole sur la mort, il y a dans le mot quelque chose de trop explicatif, de trop fermé, je trouve, dans le mot parabole. Mais si vous trouviez un synonyme plus souple, je serais complètement d'accord. Mais peu importe. Mais vous avez raison.
Ou je pense que c'est plutôt vous, oui. Le mot n'est peut-être, oui. C'est peut-être un mot un peu désuet. Dans Mais le Monde, j'ai l'impression, enfin. J'ai eu des difficultés de lecture parfois, non pas à cause du vocabulaire, mais peut-être à cause de cette densité d'interprétation qui me venait, de cette pluralité d'histoires. Et en lisant là récemment votre entretien avec Richard Comballo dans Voix du Futur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a intrigué. Vous dites, j'ai lu Wells assez tard, j'étais très impressionné par La Guerre des Mondes, mais il ne m'a pas influencé. Même chose pour Jules Verne, dommage. S'il m'avait davantage influencé, j'aurais fait une science-fiction plus populaire, peut-être. Une science-fiction plus populaire, peut-être.
Oui, c'est-à-dire que j'ai eu des différentes influences à différentes époques de ma vie. Et mon souvenir, le souvenir de ma plus forte impression reçue par une lecture de science-fiction quand j'étais gamin, c'est le conquérant de Mars, ou de la planète Mars, d'Edgar Rice Burroughs, ce capitaine Carter qui, un beau jour, ouvre les bras et s'envole vers Mars. Voilà qui me plaisait finalement plus que les fusées, vaisseaux et autres moyens techniques de s'en aller vers l'ailleurs. Mais, d'une certaine façon, ouvre les bras et s'envole vers l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, elle devient l'infini. oui. Quand même, là, il me semble que... Il me semble que j'ai, à travers cette liberté, ou je ne sais quoi, il me semble que j'ai atteint une certaine autonomie vis-à-vis des influences que j'ai reçues dans mes innombrables dans bientôt 60, plus de 60 ans de lecture de science-fiction. Et je me suis libéré. En me donnant la liberté, je me suis libéré, ce qui est après tout logique. Bon, on peut le voir autrement.
Mais parce que, en même temps, j'ai l'impression que vous faites toujours vraiment une grande distinction entre la science-fiction et la littérature générale, et que peut-être qu'avec Mais le Monde, j'ai l'impression que vous libérez de plein de manières de faire de la science-fiction. Moi, je lis peu de science-fiction, je lis ce que vous appelez, vous, de la littérature générale, et j'ai lu Mais le Monde comme je lis Pierre Guyotat. Je lis Mais le Monde comme je lis les ouvrages d'Antoine Volodine. J'ai pris Mais le Monde comme étant de ce que vous appelez, vous, de la littérature générale, c'est-à-dire un livre incroyablement libre, avec une liberté qui permet justement ce jeu des interprétations multiples, ces entrecroisements, ces pluralités de monde onirique, enfin, tout cet entremêlement qui fait qu'il y a assez peu de certitude dans ce livre. Et ça, c'est presque toute l'avant-garde des années 70. C'est ça, d'arriver à créer de la littérature qui soit rempli d'incertitudes et que le lecteur arrive à prendre du coup en charge pour essayer de se mettre des certitudes s'il n'a pas envie qu'il y ait trop d'incertitudes. Moi, ce qui m'a plu dans Mais le Monde, c'est ce nombre d'incertitudes. Ça fait partie de la littérature générale, quasiment plus de la science-fiction pour moi.
Oui, je suis infiniment heureux que vous le ressentiez ainsi, parce que c'est obscurément ce que j'ai voulu. Je ne sais pas. Jamais un auteur ne sait clairement ce qu'il a voulu, mais je dirais que, obscurément, c'est bien ce que j'ai voulu, et tant mieux si j'ai réussi, au moins un petit peu. Alors, bon, littérature générale, science-fiction, la science-fiction, je pourrais l'écrire aussi entre guillemets, parce que la science-fiction, c'est un peu ce qu'on veut, c'est aussi quand même une enveloppe commode pour glisser une multitude de choses qu'on réunit difficilement ailleurs. Et ce que j'aime chez les lecteurs de science-fiction, pas tous, mais beaucoup, c'est leur capacité d'accepter d'infinies variations autour du sujet, de l'intrigue, des personnages, de tout ce que vous voudrez qui constitue un livre. Et bon, on sait très bien que tous les lecteurs ne sont pas volontaires pour accepter cela, mais il y en a beaucoup en science-fiction. Je ne sais pas s'il y en a autant ailleurs. Je ne sais pas ce qui serait passé si ce livre était paru dans une autre collection. Je suis très content qu'il soit là. Ah, il y a sa petite place et j'aime cette collection. Elle a quelque chose qui ressemble, par ses couvertures notamment, à une sorte de miroir où le multivers vient jouer de ses reflets. Donc je trouve que la couverture de Mais le Monde est tout un programme. Il me semble qu'on aurait presque pu se passer de la quatrième de couverture. La première de couverture est très éloquente. Et les couvertures de ces prestigieuses collections, que l'on appelle à tort ou à raison littérature générale, sont sont bien ternes en général, pour la plupart, et commencent par fermer la porte au rêve, avant peut-être de l'ouvrir la première page. Je suis content d'être là, je suis content que Ney soit abrité sous cette aile, et mon Dieu, si elle manque ainsi quelques lecteurs, du moins dans l'immédiat, tant pis, peut-être les retrouvera plus tard, et puis des critiques extrêmement pertinents et curieux et impatients comme les aideront.
J'aime beaucoup votre théorie sur votre couverture, Michel Jury. C'est vrai que la couverture de Mets le Monde, ça peut faire penser à multiples, enfin, c'est des multiples petits carrés, et quand on les passe sous la lumière, effectivement, il y a tout un tas de reflets dans les zones de gris qui sont, ouais, c'est très réussi. J'aime beaucoup cette théorie. Je vous remercie beaucoup, Michel Jury.